Bonjour à chacune, à chacun. Plaisir d'être devant vous de nouveau une fois ce matin. Je ne sais pas si la technique marche, mais je vais essayer de meubler comme mon pasteur senior qui fait ça très bien. Il est à l'aise, hein? C'est impressionnant. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais à l'heure actuelle, il y a quelque chose qu'on aime bien. C'est les espèces de rankings ou bien les top 3 ou bien les meilleurs classements. Par exemple, quand vous allez en vacances, je suis sûr que vous allez tous sur TripAdvisor ou bien sur ce genre de site pour regarder quel est le meilleur hôtel dans telle ou telle ville ou bien quelle est la meilleure place pour séjourner. Ou bien si vous voulez essayer de sortir au restaurant, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez le meilleur restaurant de la région. On vous donne soit des conseils, soit vous allez regarder sur Internet. Il y a toujours de quoi faire. Je te laisse regarder, merci. Eh bien, pour nous aussi, il me semble que dans les milieux chrétiens ou avec la parole, on a aussi un peu nos versets préférés ou nos top 2 ou 3 de versets. Et puis, ce matin, on va en aborder un de ces top 3, je dis même un top 2, de versets qui concernent la mission. C'est par cette prédication, par ces versets qu'on va essayer de terminer notre série sur les béatitudes, ces versets qui sont bien connus. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Je dirais que c'est peut-être le deuxième verset le plus connu concernant la mission. Le premier verset le plus connu, d'après moi, c'est quoi? Quand on pense à la mission, on pense à quoi? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et en numéro 2, on aurait peut-être ce verset très connu de « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Alors, il y a toujours un certain risque à aborder ces sujets-là en culte, en prédication, parce que c'est des versets effectivement très connus. Comment ne pas faire pour se répéter, redire les mêmes choses? Comment conserver cette force extraordinaire, la puissance de cette parole de Jésus? C'est un peu ce qu'on va essayer de vivre ce matin. Alors, je vous invite aussi encore à la prière pour que nos cœurs soient vraiment ouverts à cette parole. Notre Père, merci parce que tu nous veux comme des témoins sur terre, tu nous veux comme des lumières du monde, comme le sel de la terre. Tu vois à quel point c'est impressionnant, à quel point tu nous fais confiance. Et Seigneur, que ce matin tu nous éclaires tout à nouveau sur la signification de ces paroles, sur ce qu'elles peuvent dire pour notre vie de tous les jours. Je te dois vraiment une visitation particulière de ton esprit par rapport à cela. Amen. J'essaie encore une fois, puis sinon on fera ça. Voilà, magnifique. Ça y est, donc je disais, la fin de l'évangile, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est peut-être le verset le plus connu pour nous envoyer en mission. Puis le deuxième verset, ce top 2 de l'évangile de Matthieu, voire même de l'ensemble de l'évangile, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et c'est ça ces versets qu'on va méditer ce matin. Mais je vous propose, comme c'est effectivement cette prédication pour clore un peu toute cette série que j'ai voulu vous apporter sur ces paroles de Jésus qu'on appelle les béatitudes, de relire l'ensemble du texte et de voir comment ces deux versets, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre, clôturent d'une certaine façon ces paroles de Jésus. Alors je vous invite à écouter la parole. Voyant les foules, il monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à les instruire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix ou les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi et de manière fausse. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ah, j'ai oublié de vous mettre la suite. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, il sera foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Et cette lumière du monde, elle n'est pas faite pour être mise sous un boisseau, mais pour être mise en évidence. Cette lumière du monde qui est comme une ville sur la montagne et que l'on voit de loin. Alors, et c'est le verset 16, faites briller vos bonnes œuvres de moi les hommes, et ainsi ils rendront gloire à Dieu. Faites briller votre lumière devant les hommes, et ainsi ils rendront gloire à Dieu. Amen. Dans ce mariage des deux textes, il y a une partie qui est universelle. Ces paroles de sagesse qu'on appelle les béatitudes, elles sont adressées à tout le monde. C'est Jésus qui s'adresse à la foule, il y a ses disciples qui sont effectivement assis à côté de lui, mais il y a toujours cette foule qui est face à lui, et il peut s'exprimer face à la foule en disant « Heureux êtes-vous ». Ce qui signifie bien que, certainement dans cette foule, Jésus voit des personnes qui déjà vivent ces paroles de sagesse, ces béatitudes. Il voit des gens qui sont heureux car ils vivent cette pauvreté en esprit, cette pureté de cœur, leur façon d'être artisans de paix. Dans la foule, pas seulement dans les visites, dans les disciples, dans la foule, il voit ces personnes qui vivent déjà cette réalité du royaume. Et ça, c'est assez extraordinaire de voir cette portée universelle des paroles de Jésus. Il s'adresse au monde, à la foule qui est en face de lui, et pas seulement à ses disciples. Et dans cette foule, il voit des valeurs et des signes du royaume. Ce n'est pas seulement pour le petit groupe de disciples qu'il voit là, mais il voit même dans le monde des signes du royaume. Et je trouve que ça nous apporte beaucoup cela. Parce que ce n'est pas pour dire on est le seul petit reste de disciples, l'église pure et sainte, mais Jésus lui-même porte un regard favorable sur l'extérieur. Ce n'est pas ce monde qui va mal, qui est catastrophique. Il porte ce regard d'amour et de tendresse sur le monde. N'oublions jamais ce regard-là. Il y a quelque chose d'universel, il y a quelque chose de beau dans cette universalité. Moi, c'est ce que j'appelle la grâce commune. Je ne sais pas si vous entendez souvent ce terme, mais c'est vraiment cette grâce qui est déversée pour tout le monde, sans distinction. Cette grâce qui est là à disposition pour chacune et chacun qui vit dans ce monde. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux chrétiens. Et c'est juste extraordinaire de le savoir, et c'est juste extraordinaire de voir que notre Sauveur, il déverse cette grâce-là et il porte ce regard sur ceux qui nous entourent. Dans ce même texte, à partir du verset 11, il y a quelque chose qui change. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne parle plus de « heureux êtes-vous » ou bien « heureux, non, heureux celui ou ceux qui sont par exemple pauvres en esprit ». Mais tout à coup, au verset 11, on passe à « Heureux êtes-vous qui êtes persécutés, qu'on répand faussement sur vous de fausses rumeurs, de fausses calomnies, etc. etc. » Et là, on est dans le particulier, ce qui concerne plus spécifiquement les disciples de Christ. C'est quand même interpellant de voir que le point de flexion, il se situe sur ce domaine de la persécution. Moi, ça m'interpelle fondamentalement. Me dire qu'à ce moment-là, on ne parle plus en « il » et de manière générale universelle, mais on parle de quelqu'un en particulier. Et ce particulier, c'est les disciples. Vous êtes appelés à me suivre, même sur ce chemin qui pourra être peut-être extrêmement difficile. Ce point de flexion, il reste interpellant, et c'est là qu'on passe sur notre vocation particulière en tant qu'Église. Être sel et lumière, c'est la mission des disciples. C'est la mission de l'Église. C'est vous êtes le sel de la terre, il ne s'adresse plus à la foule en général, mais il s'adresse spécifiquement à ses disciples qui sont assis autour de lui. Il y a vraiment un passage décisif entre l'universel et le particulier. Et cette question fondamentale, où est-ce que je me situe? Dans quelle partie est-ce que je me situe ? Pas évident, hein ? Est-ce que Jésus est seulement pour moi un maître d'une sagesse universelle ? Ou est-ce qu'il est celui que je veux suivre de manière décidée et que je veux en faire mon sauveur personnel ? Peut-être que certains d'entre nous, ce matin, sont dans la foule, ils regardent Jésus de loin, ils trouvent que c'est super intéressant ce qu'il dit. Ils sont peut-être interpellés par ses paroles pleines d'autorité et de sagesse. Et c'est déjà un excellent point. C'est déjà une première interpellation. Mais Jésus, et puis c'est peut-être là qu'il y a un peu une parole difficile à avoir, il va un peu plus loin, puisque Jésus, il appelle certains par leur nom, il les appelle directement pour qu'ils puissent le suivre. Peut-être que vous avez déjà fait ce choix-là. Et là, il y a quelque chose de plus radical qui se passe pour vous. Il y a des implications qui sont extrêmement fortes. Et la première de ces implications, dans le texte de Matthieu, c'est quoi ? C'est d'être sel de la terre et lumière du monde. Quelle mission, hein ? On ne nous envoie pas pour rien faire, on nous envoie pour être là, pour donner de la saveur au monde, et on nous envoie pour être les lumières dans le monde qui nous entoure. C'est assez énorme, on le sait peut-être par cœur, hein, peut-être ça fait la 158e fois que vous entendez ça, peut-être c'est la première fois que vous l'entendez, mais moi, chaque fois que je lis ces versets, c'est des versets qui sont vraiment sur mon cœur, je les entends tout à nouveau. Je me dis, on n'est pas là pour rien, on a quelque chose de particulier à faire dans ce monde. Il y a un message universel de sagesse, et puis j'ai encore vu, chez Payot, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des petits livres à 2,50 francs qui abordent différentes thématiques. C'est le mariage, la vie sur Terre, quelque chose de philosophie. Puis il y a un petit opuscule qui s'intéresse au bonheur. Puis je me suis dit, comme j'étais dans cette série de prédications, je vais aller voir ce qu'il en est. Puis il y a toute une série de textes sur le bonheur, de la littérature générale. Et le seul qu'ils ont retenu de la Bible, c'est le texte des Béatitudes. Donc on voit bien ce côté universel. Mais ils l'ont arrêté au verset 10. Dès le verset 10, et quand on est passé au verset 11 avec « Heureux êtes-vous, vous qui êtes persécutés », là, il n'était plus dans le, dans le petit recueil. C'est assez normal, mais ça exprime bien cette particularité et cette universalité. Et où est-ce qu'on peut se situer ? J'ai aussi été interpellé lors de la cérémonie d'au revoir à Charlie Cortet, par la prédication de son fils, Olivier, qui a pris l'image, pour exprimer le deuil, d'un bateau qui s'en va à travers un poème. Et puis, on le voit partir d'un rivage. Et puis, l'espérance qu'on a, c'est qu'un rivage qu'on ne voit pas ailleurs, il est là pour l'accueillir, pour exprimer l'image de l'amour. Puis je me suis dit, ça, c'est effectivement une image qui est universelle, c'est beau. Et puis ensuite, il a eu le courage de prendre une deuxième partie où il a pris ce texte fameux de Jean, Jésus qui s'exprime, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et puis il a continué de filer la métaphore avec le bateau. Puis qu'est-ce qu'il a dit ? Ce qui fait notre différence, c'est que nous, on sait qui est le capitaine du bateau. Et ce capitaine, c'est Jésus. Puis là, j'ai trouvé extrêmement fort aussi pour exprimer cette universalité et ce particularisme autour de Jésus. Ce capitaine du bateau qui guide notre barque ici-bas et vers les demeures de notre Père qui nous prépare. Donc c'était fort, ça m'a interpellé parce que j'étais en train de préparer cette prédication et là ça se rejoint de manière magnifique. Puis dernière interpellation, c'est ça qui est bien quand on prépare une prédication, on est un peu attentif à ce qui se passe. Je lis une interview de M. Lebas, je pense que tout le monde connaît, Jean-Philippe Lebas, conseiller d'État de République et canton de Vaud. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Je ne sais pas si c'est République, en fait. C'est République et canton du Jura, mais c'est... Alors, canton de Vaud, je vais pas aller plus loin. Mais toujours est-il que ce qu'il dit, il adresse un message aux églises. Et qu'est-ce qu'un politicien dit aux églises ? Votre caractéristique, c'est d'être le sel de la terre. Si vous cessez d'être le sel de la terre, vous n'avez plus de raison d'être. Si vous faites, par exemple, que service universel, il ne dit pas qu'il faut arrêter de le faire. Service universel social, c'est bien, mais si vous faites que ça, vous n'êtes plus sel de la terre. Et c'est un conseiller d'État qui le dit. Il y a quand même de quoi être interpellé. Être sel et lumière, donc, c'est être ce que nous sommes déjà. C'est assumer pleinement notre identité. Une fois qu'on a choisi de suivre Jésus, ça ne sert à rien de tout le temps se demander si vraiment on va le suivre ou pas. Il y a une décision qui a été prise et puis on peut y aller. On est engagé sur le chemin, et puis c'est à rien de tout le temps se poser 1000 questions et une question. On a une mission qui nous est confiée, c'est d'être le sel de la terre, la lumière du monde. Il n'y a plus tellement de volonté de Dieu à chercher, je suis un peu radical là-dessus, mais on a une mission qui nous est donnée, et c'est beau. Si donc on se reconnaît dans l'appartenance à l'Église, la parole nous encourage à consentir à être visible et à consentir à être plein de saveur pour ceux qui nous entourent. Puis là, je l'ai déjà cité à la célébration patriotique, c'est une citation d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bonhoeffer, et puis voilà ce qu'il nous dit. « Ceux qui marchent à la suite de Jésus ne se trouvent plus placés devant une décision à prendre. La seule décision en ce qui les concerne a été prise. Il leur faut maintenant être ce qu'ils sont. Sinon, ils ne sont plus de ceux qui suivent Jésus. Ils sont la communauté visible. Leur marche à la suite de Jésus consiste en une action visible par laquelle ils se distinguent du monde. Sinon, il ne s'agit pas de marche à la suite du Christ. Il est vrai que cette marche est aussi visible que la lumière dans la nuit ou une montagne dans la plaine. » Magnifique, hein, cette perspective de mission, d'être cette communauté visible comme une ville sur la montagne ou une lumière que l'on met sur un chandelier. Et c'est particulièrement impressionnant quand on se souvient de qui les a prononcés, ce Dietrich Bonhoeffer. Je ne sais pas, vous pouvez lever la main, qu'est-ce qu'il connaît déjà, Dietrich Bonhoeffer, ça vaut la peine que je me répète. Mais c'est quelqu'un qui a vécu dans les années, au début du XXe siècle, de 1906 à 45. Et puis, il était pasteur luthérien dans l'Allemagne nazie des années 30. Et dès 1933, il a pris position publiquement à la radio, de manière visible, pour mettre en garde son peuple contre les dangers et la dérive que Hitler allait instaurer. Dès 1933, et dès 1933, il a été censuré. Ça ne l'a pas empêché de se taire et de continuer à apporter ce témoignage visible et fort, de dire que là, il y a une mauvaise direction qui a été prise. Et il a même dû le prendre, et de manière presque encore plus forte, à l'intérieur de l'Église qu'à l'extérieur de l'Église. Là, il y a aussi quelque chose de très interpellant. Mais lui, malgré les risques, et c'est ce qui va le faire condamner à mort, il n'a pas renoncé à être cette lumière du monde et ce sel de la terre. Pour moi, c'est des exemples qui me sont extraordinairement forts. On ne peut pas non plus passer sous silence les avertissements que contiennent ces deux versets, hein. Surtout celui qui concerne le sel, où il dit « Que faire du sel si il est plus bon à saler ? À quoi ça sert de mettre du sel dans l'eau des pâtes si de toute manière vous n'avez plus aucune saveur dans le sel que vous mettez, s'il est passé ou s'il est pourri ?» Et puis là, c'est aussi intéressant de... Je suis un peu moins théologien, mais c'est intéressant de regarder le sens du terme en grec, parce qu'il est nettement plus fort que le sens du terme français, ou bien, parce qu'on ne sait pas exactement comment le traduire, mais le terme en grec, ça s'appelle « moros ». Et puis, c'est ce qu'on traduit par quelque chose qui ne peut plus saler. Mais en fait, c'est un peu boiteux comme traduction, parce que le vrai sens de « moros » en grec, c'est « être fou ». Alors, je ne sais pas si vous voyez la traduction qu'on pourrait proposer, mais la traduction plus forte, c'est de se dire, si le sel devient fou, il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Et puis cette traduction, ça prend vraiment une dimension particulière, dans le sens que si l'Église, d'une certaine façon, devient folle, ou si les disciples deviennent fous, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent plus leur mission, ben finalement, il est plus bon qu'à être jeté par terre et foulé aux pieds des hommes. C'est nettement plus fort que si le sel perd sa saveur. C'est vraiment de se dire... On est à côté de la plaque si on refuse la mission qui nous est confiée. Donc, il y a une forme de radicalité à ce que Jésus nous demande. Dans cette particularité d'être ses disciples, ce n'est pas rien du tout. Le fait de ne pas assumer sa vocation de celle de la terre, qui est de vivre concrètement cette nouveauté de vie suite à l'appel du Christ, est à la fois considérée comme une folie et, malheureusement, comme un cas de figure possible. Il peut arriver que l'Église perde de vue sa vocation, perde de vue sa mission. Il y a beaucoup d'autres textes dans l'Évangile qui vont dans la même direction et qui nous mettent en garde contre cette tentation de perdre le sens de qui nous sommes, de perdre le sens de notre mission. Puis c'est quelque chose qu'on observe aussi, je trouve, assez fréquemment, c'est de se dire quand une société ou une église ou quoi que ce soit, un groupe humain est en train de mourir, souvent c'est peu par des attaques extérieures, mais c'est par de l'intérieur. On est un peu pourri de l'intérieur, comme un arbre qu'on ne voit pas forcément tout de suite s'il est... Il peut donner des bonnes apparences d'extérieur, mais il peut être pourri de l'intérieur. Et souvent, dans la vie de l'Église, ça a été ça, c'est de l'intérieur qu'on a perdu le sens de cette mission et que finalement, on s'est renfermé sur nous-mêmes et jusqu'à en mourir. Il y a quelque chose d'interpellant à ce niveau-là, dans ces avertissements. Est-ce que nous sommes assez fous pour accepter notre mission et suivre le Christ pleinement? Quelques pistes pratiques pour essayer de mettre en œuvre cette mission. Premièrement, j'aimerais vous inviter à réfléchir quelques instants sur quelques écueils à éviter. Et le premier, qui me paraît assez fondamental, c'est d'éviter l'orgueil spirituel. Parce que quand on est considéré en tant qu'Église comme celle de la terre et lumière du monde, c'est facile de se prendre effectivement pour les rois du monde. Hein. On se dit, ah, on est les seuls qui avons compris. On a tout ce qu'il faut pour évangéliser les autres. On est les plus forts, on plastronne un peu. Et puis là, c'est le meilleur moyen pour se planter. C'est Guy qui me disait que Maurice Ray, il mettait souvent en garde ces personnes qui venaient lui poser des questions de différentes choses. Et la première chose qu'il disait toujours, c'était « prenez garde à l'orgueil spirituel ». Prenez garde à l'orgueil spirituel. Puis quand on lit ces versets de « Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre », je pense que c'est particulièrement fort. Hein. C'est de se dire comment vivre cette mission dans la dépendance de Dieu. N'oublions jamais que le fait d'être lumière du monde et celle de la terre, ce n'est pas par nos propres moyens qu'on est devenu lumière du monde ou celle de la terre, c'est vraiment des dons de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné sa lumière, c'est Dieu qui nous a donné sa saveur, et nous, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de la faire vivre autour de nous. Rien de plus. Le deuxième écueil, et puis ça on l'a déjà vu souvent en méditant ces béatitudes, c'est de se dire qu'on est tellement loin du compte, tellement mauvais, tellement pas à la hauteur, que finalement, on préfère se fondre dans la masse. On se réfugie incognito, puis on préfère mettre notre lumière sous une chape de plomb, qu'on préfère finalement ne pas trop donner de saveur autour de nous, et puis de se dire, bon ben voilà, au moins comme ça, je suis peinard, je ne prends pas trop de risques, je reste planqué, et puis on ne va pas pouvoir me reprocher ça ou ça. Mais ce vertige par rapport à la mission qui nous est confiée, par rapport aussi à l'histoire de l'Église et puis ce qu'elle a pu occasionner de mauvais quand même dans ce domaine-là, je pense que c'est un danger qui nous concerne particulièrement ici en Suisse. Puis là, je me dis que si on sombre là-dedans, c'est dommage parce que c'est vraiment le persécuteur qui a gagné la partie. Là, parce qu'il se dit, ben, le lien avec Jésus, il est coupé, on refuse notre mission. Alors, ça peut être souvent sous des formes très subtiles, hein, d'humilité, de se dire finalement il faut rester discret, différentes choses. Mais je crois qu'il ne faut pas tomber dans cet écueil-là, puis oser juste simplement, avec humilité, assumer qui on est, puis faire passer ce message autour de nous. Comment ? Alors ça, c'est toujours des grandes questions, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous donner de liste de commission ni de checklist sur comment il faut faire. Je laisse simplement cette interpellation du verset 16. Faites briller vos belles œuvres devant les hommes et ainsi ils rendront gloire à Dieu. Notre manière d'être, notre manière d'agir dans la société est hyper importante. Jésus nous dit à travers l'évangile de Matthieu, faites briller vos belles œuvres. Ce n'est pas faites briller vos belles paroles, c'est faites briller vos belles œuvres. Et ainsi, les gens verront qu'il y a peut-être quelque chose de différent dans votre manière de vivre les choses, dans votre manière de vivre votre vie de disciple. Faites briller vos belles œuvres devant les hommes. Et puis sur le comment, et c'est la manière un peu que je peux essayer de terminer ce petit cycle sur les béatitudes, c'est ce qu'on a vu, d'après moi, depuis quelques temps, en méditant ce texte magnifique de « Heureux êtes-vous les pauvres en esprit, heureux êtes-vous ceux qui pleurent car ils seront consolés ». c'est vraiment de se mettre dans cette dépendance totale de Dieu et de travailler sur notre être, sur qui nous sommes en tant que ses enfants. Et puis là, ces 8 paroles merveilleuses de sagesse, moi j'essaye depuis de les rappeler tous les jours. Alors c'est peut-être un petit truc que je peux vous communiquer sur le comment, mais chaque jour, à un moment donné de la journée, j'essaye de prendre un temps à part, c'est pas très long, 2-3 hein, minutes, puis je me remémore ces 8 paroles de béatitude. Et puis ça change les choses. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais ça change les choses. Ça change le regard que j'ai sur ma vie. Ça change le regard que j'ai sur celles et ceux qui m'entourent. Ça m'apporte cette paix qui vient de Dieu. Puis je me dis, je considère l'autre différemment. Je me considère aussi face à Dieu de manière différente. Alors c'est peut-être un petit conseil sur le comment que je peux vous donner. Essayons de se remémorer de manière régulière ces paroles de Jésus qui nous laissent. Heureux êtes-vous, 3 petits points. Et puis marchons sur ce chemin-là. Et puis, c'est un peu ce que je disais en préalable sur le comment. Je crois que je suis toujours épaté de voir à quel point l'Esprit de Dieu utilise des voix créatives et puis des voix différentes selon les aspirations de chacune et chacun dans son Église. Et puis c'est pour ça que il me semble qu'il n'y a pas forcément de recette de cuisine à adopter sur le comment partir en mission. Par contre, où on a à se rester interpellé, c'est si on y va ou si on n'y va pas. Une fois qu'on donne à Dieu notre assentiment, le fait de se dire, bon voilà, fais de moi un instrument dans ta main, immanquablement, des portes vont s'ouvrir devant nous. J'ai encore entendu un témoignage tout dernièrement, quelqu'un dans la communauté qui me dit, le matin, j'ai prié pour dire, ben voilà, Seigneur, je me mets à ta disposition. Et le soir, elle recevait déjà un appel téléphonique pour mettre en pratique la prière qu'elle avait donnée à Dieu le matin. Donc, c'est plutôt un risque que vous prenez si vous faites ce genre de prière, que vous le sachiez, parce que Dieu risque de vous utiliser. Laissons-nous nous remplir par Dieu, par sa présence. Soyons ces personnes telles que Jésus les voit dans ses béatitudes. Et je termine par cette prière pour nous en tant que communauté et cet encouragement qu'est ce verset 16. Que votre lumière brille ainsi devant les gens afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas nous qui serons glorifiés, ce n'est pas nous qui aurons plus de reconnaissance sociale, mais c'est vraiment une manière de se dire je fais ce que j'ai à faire et toute la gloire revient à notre Père, à Dieu. Amen.